Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique. Écoutons ce que déclare la Bible.
Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu.
Voici donc le sujet de notre série de discussions actuellement. Que signifie être un enfant de Dieu? Et comment vivre en tant qu'enfant de Dieu?
Ian s'entretiendra avec André afin d'approfondir notre compréhension sur cette vérité si précieuse.
Bonjour André, et merci de vous joindre à nous pour nous parler de ce thème biblique si important.
Merci Ian et bonjour à tous.
Et de quoi allons-nous discuter aujourd'hui?
Vous l'avez probablement déjà constaté, dans les écrits du Nouveau Testament, les apôtres s'adressent souvent aux disciples de Jésus en employant le mot « frère ». Or, puisqu'en tant que chrétiens nous avons le même Père céleste, nous pouvons considérer tout autre chrétien comme notre frère ou notre sœur. Par notre foi en Jésus-Christ, nous faisons tous partie de la même famille de Dieu et nos relations avec les autres chrétiens doivent refléter cette vérité.
Si par la foi en notre Père céleste nous sommes introduits dans une nouvelle famille, qui est de nature spirituelle, qu'est-ce qui va caractériser nos comportements et nos attitudes?
Tout d'abord, dans nos relations avec nos frères et sœurs dans l'Église, nous devons travailler à rester unis, à rejeter tout ce qui pourrait nous diviser. Écoutons l'apôtre Paul lorsqu'il s'adresse aux Galates, chapitre 3, verset 28. Il n'y a donc plus de différence entre les juifs et les non-juifs, entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes. Unis à Jésus-Christ, vous êtes un. Ou encore, écoutons Paul déclarer aux Colossiens au chapitre 3, verset 11. Dans cette nouvelle humanité, il n'y a plus de différence entre juifs et non-juifs, entre circoncis et incirconcis, étrangers, barbares, esclaves, hommes libres. Il n'y a plus que le Christ. Lui qui est tout, est en tous.
Il est vrai qu'au premier siècle, à l'époque de l'apôtre Paul, existaient de nombreux clivages liés à l'appartenance raciale, être juif ou non-juif, ou au statut social, être esclave ou libre. Il existait des préjugés, des tensions et des conflits persistants.
Et pourtant, l'Éternel a appelé des hommes et des femmes de tout arrière-plan social et culturel pour qu'ils deviennent ses enfants, pour qu'ils apprennent à vivre en paix, en harmonie les uns avec les autres au sein même de l'Église. Il nous faut surmonter les préjugés, mettre de côté les mœurs et habitudes culturelles néfastes. Par exemple, un juif, au temps de Jésus, ne se serait jamais attablé pour partager son repas avec un non-juif. Les maîtres, non plus, n'avaient pas l'habitude de manger avec les esclaves. Et pourtant, malgré ce contexte social, nous apprenons que dans les églises, tous partageaient leur repas ensemble.
Quel témoignage merveilleux!
Mais considérons à présent notre propre contexte. Aujourd'hui, encore dans notre propre pays, nous pouvons faire face à des divisions, tout comme les chrétiens du premier siècle. Ces divisions peuvent être d'ordre racial ou religieux. Des divisions d'ordre économique peuvent aussi s'ériger entre riches et pauvres. Parfois même, les jeunes ne s'entendent plus avec les personnes âgées. En Afrique, certaines tribus se déchirent. Réfléchissons donc sur ces querelles, ces désaccords qui détruisent et cherchons un moyen d'agir, un moyen de les contrecarrer.
Vous affirmez que dans les églises, ces divisions doivent donc disparaître?
Oui, tout à fait. Nous devons considérer tous les membres de l'Église comme des enfants de Dieu, car tous, nous invoquons le même Père céleste. Ce lien spirituel, cette foi commune, devrait créer des relations privilégiées entre frères et sœurs au sein de l'Église, des relations qui favorisent la paix et l'harmonie.
Puisque notre Père céleste nous unit aux frères et sœurs de l'Église, à cause de notre foi commune, comment devons-nous nous comporter envers eux?
Écoutons, pour répondre à cette question, la suite de l'épître de Paul aux Colossiens, lue tout à l'heure.
Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné. Vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien par excellence. Que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions, car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps.
Paul parle donc de se revêtir de qualités telles que la bonté et l'amour, la douceur et l'humilité, la patience.
Oui, ce mot « revêtir » est intéressant. De même que chaque matin nous choisissons les vêtements que nous allons porter durant la journée, de même, lorsque nous allons rencontrer des chrétiens, nous devons choisir d'agir envers eux avec bonté et amour. Nous devons déployer pour eux toutes les bonnes qualités du Seigneur, car de tels comportements honorent Dieu et sont essentiels si nous voulons entretenir de bonnes relations fraternelles. Et Paul se montre fort réaliste lorsqu'il cite ces qualités.
Et pourquoi dites-vous cela?
Parce que Paul parle entre autres du besoin de pardonner.
En effet, et pardonner est important, quelle que soit la gravité de la faute subie.
Oui, Paul le sait fort bien. Si des personnes très différentes et d'arrière-plan divers se réunissent, les risques de malentendus, de tensions et de difficultés vont s'amplifier. Après tout, le chrétien demeure un pécheur, même s'il aspire à vivre à l'exemple de Christ. C'est pour cette raison que Paul nous enseigne sur la manière de vaincre ces difficultés lorsqu'elles surviennent. Et comme toujours, il prend l'exemple du Seigneur Jésus pour souligner la nécessité de pardonner. Nous devons travailler à ne pas offenser notre prochain. Et si par malchance nous blessons une personne, nous devons agir pour que la réconciliation et le pardon aient lieu. Le Seigneur nous appelle à rechercher la paix afin que nous vivions en harmonie avec nos frères et sœurs au sein même de l'Église.
Merci André. Permettez-moi de vous poser cette question. Si nous sommes frères et sœurs entre membres de l'Église, cela implique-t-il que nous devons nous aider mutuellement?
Oui, tout à fait. Cet enseignement se dégage très clairement de la Bible. Nous avons d'ailleurs déjà abordé ce thème de l'amour qui, selon la Bible, consiste en des sentiments positifs et en action. Écoutons donc un extrait de la première épître de Jean exprimant cela. « Si un homme riche voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut être présent en lui. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité. À l'instar des membres d'une même famille qui cherchent à s'entraider matériellement et sur le plan pratique, nous devons nous engager à faire de même dans l'Église. La Bible est très claire à ce sujet. Puisque Dieu nous aime comme un Père parfait, nous devons, en tant que ses enfants, aimer de façon toute particulière nos frères et sœurs en Christ.
Merci André pour ces rappels importants. Ainsi, nous vous encourageons tous à faire preuve d'un amour grandissant envers vos frères et sœurs au sein de l'Église.
Nous poursuivons dès à présent notre série de courtes méditations bibliques dont le sujet porte sur la personne de Jésus-Christ tel qu'il nous est présenté dans le livre de l'Apocalypse.
Le livre de l'Apocalypse fut écrit par l'apôtre Jean. Le but de son livre est d'encourager les chrétiens à persévérer durant les moments difficiles en gardant les yeux fixés sur leur récompense qui sera éternelle. Écoutons Apocalypse chapitre 2, verset 17.
Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai la manne cachée et une pierre blanche. Sur cette pierre est gravé un nom nouveau que personne ne connaît, sauf celui qui le reçoit.
Je cède à présent la parole à notre invité Jean-Luc, qui nous fera part de ses réflexions sur ce verset.
Les paroles que nous venons d'écouter furent adressées à l'église de Pergame, située en Asie Mineure, il y a environ 1900 ans de cela. Les chrétiens de cette ville étaient confrontés à un problème, une véritable tentation. Pour pouvoir exercer un métier, bénéficier d'une bonne réputation et participer à la vie sociale, il devait assister à des festins, manger à des banquets, durant lesquels des idoles y étaient adorées et des conduites immorales pratiquées. Mais que faire ? Certains enseignants, de prétendument chrétiens, osaient suggérer qu'il n'y avait pas de mal à participer à ces activités. Fallait-il les écouter ? Jésus s'est prononcé à ce sujet en déclarant « Je vais combattre ces gens-là avec l'épée qui sort de ma bouche. » Autrement dit, le Seigneur Jésus condamne, à juste titre, toute personne qui induit son peuple en erreur et le pousse à des actes débauchés, qui l'incite à l'impureté et à l'idolâtrie. Aujourd'hui, le monde a évolué. Toutefois, le chrétien est encore appelé à s'abstenir de toute activité qui pourrait l'associer ou l'impliquer dans un culte idolâtre ou occulte. De même, l'enfant de Dieu doit s'éloigner de toute pratique qui pourrait le conduire vers la débauche ou l'immoralité. Mais résister au mal n'est pas forcément facile à pratiquer. Nous pouvons avoir le sentiment de nous priver de beaucoup de choses ou penser que nous nous isolons ou nous marginalisons. De plus, nous pouvons subir des pressions des uns et des autres, nous poussant à participer au mal, et des personnes prétendant pourtant être chrétiennes peuvent nous entraîner dans ce sens. C'est pour cela que le Seigneur Jésus nous promet de nous donner de la manne cachée. Les chrétiens devaient s'abstenir des banquets idolâtres et immoraux. À la place, ils devaient se nourrir et se délecter d'une nourriture bien meilleure encore. Quelle est cette manne cachée ? Que représente-t-elle ? Dans l'évangile de Jean, Jésus se présente comme le pain qui vient du ciel. Il est donc la manne cachée. Tout comme l'Éternel a nourri le peuple hébreu lors de son séjour dans le désert, le Seigneur Jésus promet de renouveler nos forces. Il promet de nous réjouir de sa présence, même si notre cheminement est ardu. Le monde qui nous entoure paraît attirant, mais il peut décevoir et se tourner contre nous. Il est la cause de tant de malheurs. Au lieu de courir vers le monde, nous devons nous tourner vers Jésus et nous nourrir de sa présence. Il est la source de tout ce dont nous avons réellement besoin. Trouvons en lui, en sa parole et sa grâce, un trésor. Car il est véritablement celui qui nous comblera bien davantage que le meilleur des festins mondains.
Merci Jean-Luc. Vous serez d'ailleurs de retour parmi nous la prochaine fois pour nous parler de ce que représente la pierre blanche dont le texte lu tout à l'heure fait mention.
Et nous remercions Jean-Luc d'avoir dirigé nos regards sur l'essentiel. Jésus est celui qui nourrit notre être intérieur. Il est la nourriture qui nous permet de persévérer emplis d'espérance.
En souhaitant vous retrouver bientôt, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que le Seigneur vous bénisse.